La porteuse de pain, première partie, chapitre 26 à 30. Hélas, murmura Madame Bertha, cela ne me rendra pas mon frère. Malheureusement non, mais du moins il sera vengé, répondit le juge d'instruction. Puis il ajouta, « J'ai tenu à vous voir, madame, afin d'être fixé d'une manière absolue sur le moment du retour de M. Labraud. Votre frère, m'a-t-on dit, était allé chez vous, à Saint-Gervais, visiter son enfant malade. »« Oui, monsieur, appelé en toute hâte par une dépêche de moi. » »« Mon neveu, le petit Lucien, venait d'être atteint d'une angine, pouvant amener de graves complications. La présence du père me semblait indispensable. » Quand mon frère arriva, la situation s'était favorablement modifiée. L'enfant allait mieux, tout danger avait disparu. Mon frère fut aussitôt rassuré, et des affaires importantes nécessitant son retour à l'usine, il repartit le lendemain au lieu de passer 2 jours auprès de moi, comme il en avait eu d'abord l'intention. « Et comme il nous l'avait annoncé, » ajouta le caissier Ricou. Par quel train est-il reparti le lendemain de son arrivée ? Par l'express de 4h45 du soir. Il se trouvait alors vers 9h à Paris, où il s'est arrêté assez longtemps, pour des motifs qui nous sont inconnus, et il est arrivé à l'usine où l'incendiaire commençait son crime. L'incendiaire, surprise, l'a frappé. « Une femme ? » fit observer Madame Bertin. « Est-ce probable ? Est-ce possible ? » ?»« Nous n'avons à cet égard aucun doute, » répliqua le magistrat. « Vous savez quelle est cette femme ?»« Oui, Jeanne Fortier, la veuve d'un ouvrier tué à l'usine, et à laquelle mon frère s'intéressait vivement. »« Vous ignorez sans doute que M. Labraud venait de retirer à Jeanne Fortier l'emploi qu'il lui avait confié, et qu'elle ne remplissait point d'une façon satisfaisante. »« Non, monsieur, je ne l'ignore pas. Mais ce renvoi ne constituait point une disgrâce pour Jeanne Fortier, et ne lui causait aucun préjudice. » Son remplacement par un homme était utile, voilà tout. Mon frère ne voulait pas laisser sans ressources la veuve de son employé. Le jour même de sa mort, il m'avait prié de la prendre chez moi, ainsi que son fils, et la chose était convenue entre nous. Jeanne Fortier connaissait-elle cette démarche de M. Labroux ? Je ne le crois pas. Alors, l'ignorant, elle poursuivait son œuvre de vengeance. Est-ce certain ? Je vous répète, madame, que le doute est impossible. Nous avons recueilli contre elle des charges accablantes. Sa disparition seule serait une preuve suffisante de culpabilité. Il est vrai que sa fuite est étrange, dit Madame Bertin, mais cette fuite se peut attribuer à l'épouvante aussi bien qu'au crime. Eh, madame, qu'aurait pu craindre Jeanne Fortier innocente ? D'ailleurs, ses achats de pétrole démontrent non seulement le crime, mais la préméditation. Quel mobile aurait fait agir la malheureuse ? La vengeance, d'abord. Et ensuite, la cupidité. A-t-elle volé ? Si ce n'est pas prouvé, c'est du moins plus que probable. M. Labraud a été tué dans le couloir conduisant à son cabinet. C'est là qu'on a relevé son cadavre. Pourquoi la meurtrière se trouvait-elle en cet endroit, sinon pour y voler la somme considérable dont elle connaissait la présence dans la caisse ? Ceci n'est qu'une supposition. Cette supposition deviendra une certitude lorsque nous aurons fait fouiller les décombres pour y chercher des parcelles d'or fondu qui ne peuvent manquer de s'y trouver si le vol n'a point été commis. Bref, vos soupçons ne se portent que sur Jeanne Fortier. Le juge d'instruction attacha sur Madame Bertin un regard où se lisait une curiosité très vive. Personne ne nous a été signalé, fit-il ensuite. Auriez-vous, madame, des doutes à l'endroit de quelqu'un ? « Je dois, monsieur, vous dire tout ce que je sais, et même tout ce que je pense. J'ai eu avec mon frère un long entretien le jour où il est venu voir son fils à Saint-Gervais. Vous savez que mon frère était un inventeur qui passait sa vie à chercher des progrès et des innovations dans la mécanique industrielle. Je sais, comme tout le monde, madame, que M. Labroux était un savant et un chercheur. Mon frère m'a fait une confidence. Laquelle? Il venait d'inventer une mécanique à guillocher les surfaces courbes, qui devait lui constituer en peu de temps, croyait-il, une grosse fortune. Tous ses plans étaient achevés dans le plus grand secret. Il allait les mettre à exécution d'un moment à l'autre. Eh bien, madame?
Je viens de vous dire que les plans étaient achevés dans le plus grand secret.
C'est inexact.
Monsieur Labrousse était-il donc confié à quelqu'un?
Oui.
À qui?
À un homme qui pourrait avoir eu l'idée de s'emparer de l'invention de mon frère, de l'exploiter pour son propre compte et de s'enrichir au détriment de l'inventeur véritable. Ceci admis, le vol, l'incendie de l'usine, l'assassinat du patron, tout s'expliquerait, car je ne puis croire qu'une femme, quelle que soit d'ailleurs son énergie, sa force physique et sa haine, puisse accomplir une pareille œuvre de destruction.
À quelle personne, monsieur Labroux, avait-il confié son secret?
À un contremaître de son usine.
Le nom de ce contremaître?
Jacques Garot. Le caissier Ricou bondit. Le juge d'instruction eut un geste de commisération presque railleuse.
Vous vous égarez, madame, fit-il ensuite.
Je m'égare?
Certes, madame. S'il est un homme qu'aucun soupçon ne puisse atteindre, c'est celui que vous désignez.
Pourquoi?
Parce qu'il est mort.
Mort?
S'écria madame Bertin.
Oui, madame. Mort, victime de son dévouement, en se précipitant au milieu des flammes pour aller sauver les papiers et la caisse de monsieur Labroux.
Cela, je l'affirme, ajouta Ricou.
J'ai vu de mes yeux vus le toit du pavillon s'effondrer sur lui et l'engloutir dans une fournaise tellement ardente que nous ne pourrons pas même retrouver son cadavre. Jacques Garot fut un martyr du devoir. Honneur à son souvenir.
Mort? Répéta madame Bertin.
Vous avez raison, monsieur. Je m'égarais. Pardonnez-moi une accusation folle. On ne m'avait point parlé de la fin tragique de ce brave homme.
Je n'ai rien à vous pardonner, madame, répondit le juge. Vous voulez, comme nous, que l'assassin de votre frère soit puni. Et vous cherchez, c'est bien naturel. Mais croyez-moi, le véritable, le seul coupable, est l'odieuse créature que tout désigne, que tout accuse. C'est Jeanne Fortier.
Vous n'avez pas d'autres éclaircissements à nous donner, madame?
Non, monsieur.
Je vous rends donc votre liberté. Si de nouveau j'ai besoin de vous, j'aurai l'honneur de vous écrire.
Je serai toujours à vos ordres.
Madame Bertin et le caissier Ricou quittèrent le cabinet du juge d'instruction. Jeanne et son fils, nos lecteurs le savent, avaient reçu du bon curé Laugier les premiers soins que nécessitait leur état. Une tasse de bouillon et un peu de vin vieux de Bordeaux réconfortèrent les deux pauvres créatures brisées de fatigue et mourant de faim. Les premières paroles de Jeanne furent celles-ci.
« Dieu vous récompensera de votre bonté, monsieur. Que serions-nous devenus sans vous, mon enfant et moi ?»«
Tout à l'heure, vous déjeunerez solidement, » dit la sœur du curé pour couper court aux effusions de gratitude de madame Fortier. « Vous prendrez ensuite un repos dont vous paraissez avoir grand besoin. »
« Vous avez beaucoup marché ?»«
Oh oui, madame, beaucoup, beaucoup !» s'écria Georges qui n'avait point quitté son joujou.
« Aussi, je suis bien fatiguée. Et pourtant, petite mère m'a porté presque tout le temps. »«
Eh bien, tu vas dormir un peu, mon mignon, en attendant le déjeuner, » fit madame Darrier en embrassant l'enfant.
« Vous aussi, pauvre femme, » ajouta-t-elle en s'adressant à Jeanne. « Brigitte a préparé pour vous un lit sur lequel vous pourrez vous étendre. »
La jeune veuve éclata en sanglots. La reconnaissance débordait de son cœur gonflé.
« Oh, merci, merci, » balbutia-t-elle.
« Veuillez me suivre. »«
Madame, » demanda Georges, « je peux emporter mon petit cheval, n'est-ce pas ?»«
Mais oui, mon mignon, emporte-le. » Jeanne avait pris la main de son fils. Tous deux accompagnèrent madame Darrier à la chambre disposée pour eux.
« Dormez en paix, » leur dit la sœur du desservant. « On viendra vous réveiller pour le déjeuner. »«
Encore une fois, merci, madame, et soyez bénie. »«
Oui, madame, » ajouta Georges en prenant et en pressant contre ses lèvres la main de Clarisse Darrier.
Celle-ci sentit deux larmes couler sur ses joues. Elle embrassa de nouveau l'enfant et sortit pour cacher l'émotion qui l'envahissait. Étienne Castel et l'abbé Laugier, quand elle les rejoignit, causaient. « Vous parliez de cette pauvre mère et de son enfant, n'est-ce pas ?» leur demanda-t-elle.
« Oui, madame, » répondit le jeune peintre.
et nous cherchions à deviner quel concours de circonstances l'avait conduite à la porte de la cure, exténuée de fatigue et mourant de faim.
« Les drames de la misère, comme on l'imprime dans les journaux, » fit le curé.
Les jeunes filles trompées, les jeunes femmes abandonnées par leur mari et forcées de lutter seules avec un enfant contre les difficultés de la vie sont nombreuses, reprit Étienne.
L'infortuné qui nous occupe est peut-être de celle-là.
Elle n'appartient pas à ce pays, dit Clarisse.
Sa fatigue prouve qu'elle vient de loin.
Et son visage, portant l'empreinte de profondes douleurs, atteste qu'elle a bien souffert, ajouta l'ecclésiastique.
Visage plein d'expression, et que je dessinerai certainement. S'écria l'artiste.
Que penses-tu faire pour elle, mon frère ? Demanda Madame Darié.
Ce que nous faisons pour tous ceux qui viennent s'adresser à nous, ma sœur. Lui donner un secours d'argent quand elle sera bien reposée et lui laisser continuer sa route.
Ne l'interrogez-vous point ? Fit Étienne.
L'interroger ? Pourquoi ?
Pour savoir.
Cette femme a je ne sais quoi de préoccupé, d'inquiet dans la physionomie. Je ne serais pas très surpris qu'elle ait quelque chose à se reprocher.
Soit, je la questionnerai, mais seulement pour pouvoir lui donner un bon conseil.
Si préoccupée d'ailleurs que soit son regard, quelque inquiétude que sa physionomie exprime, je crois que cette femme est très pauvre, très malheureuse, mais très honnête. Nous verrons si je me trompe.
Faute de renseignements, la conversation au sujet de Jeanne était épuisée. Monsieur Laugier rouvrit son bréviaire. Étienne reprit ses pinceaux, puis les abandonna pour saisir un crayon et essayer d'esquisser de mémoire, sur une feuille de son carnet, les traits de la voyageuse inconnue. La sonnette de la grille résonna de nouveau, et le facteur rural entra dans le jardin, apportant au curé une lettre et le journal qui, chaque jour à la même heure, arrivait de Paris. Monsieur Laugier déchira d'abord l'enveloppe de la lettre et parcourut le contenu qui n'avait pas d'importance. Il rompit ensuite la bande de son journal, le déplia et se mit à le lire avec lenteur, ne passant pas une ligne du texte. Bientôt, il arriva à la seconde page où s'étalait un long article sous cette rubrique. Un triple crime. L'abbé commença la lecture de cet article. À mesure qu'il avançait dans cette lecture, ses sourcils se fronçaient et il laissa tout à coup échapper une exclamation qui fit tressaillir Étienne en le distrayant de son travail. Il leva la tête. « Vous trouvez dans le journal quelque chose qui vous intéresse, mon cher abbé ? » demanda-t-il.
« Qui m'intéresse au plus haut point, et qui va vous intéresser aussi, » répondit le prêtre. « C'est étrange et c'est effrayant. »«
Quoi donc ? » fit Madame Darié qui sortait en ce moment de la maison.
« Approchez-vous de moi tous les deux, » dit le curé en baissant la voix. « Asseyez-vous et écoutez. »
Étienne et Clarisse, fort intrigués, prirent chacun un siège et s'assirent à la droite et à la gauche de l'ecclésiastique. D'une voix toujours contenue, l'abbé Laugier commença.
Dans la nuit d'avant-hier à hier, un triple crime a été commis à Alfortville, crime prémédité longuement et exécuté avec un effroyable sang-froid. L'importante usine de l'ingénieur Jules Labroux, située à quelque distance de toute habitation, dans la plaine d'Alfortville, n'existe plus. L'incendie, allumé par une main infâme, n'a laissé que des ruines, et l'ingénieur lui-même, revenant de voyage à l'improviste au milieu de la nuit, a été assassiné par l'incendiaire, surpris en flagrant délit de vol. L'ingénieur Labroux n'est point la seule victime. Le contremaître, Jacques Garot, n'écoutant que son dévouement, a trouvé la mort au milieu des flammes en essayant d'opérer le sauvetage de la caisse. L'usine était gardée la nuit par une femme, Jeanne Fortier. Tout désigne cette femme comme ayant commis ce triple crime pour se venger de son renvoi décidé 2 jours auparavant par M. Labroux. La misérable créature s'est enfuie avec son enfant, laissant le feu allumé par elle, à l'aide du pétrole, achever son œuvre de destruction. Le parquet de Paris et la préfecture ont pris les mesures nécessaires pour que Jeanne Fortier n'échappe point au châtiment qu'elle mérite. Son signalement a été télégraphié à toutes les brigades de gendarmerie. Nous le recevons nous-mêmes avec prière de l'insérer. Le voici. 26 ans, taille un peu au-dessus de la moyenne, très bien proportionné, chevelure abondante d'un blond fauve, très régulier, grands yeux d'un bleu foncé, pâleur mate, allure décidée. Jeanne Fortier est accompagnée d'un enfant de 3 ans et demi. Là s'arrêtait le signalement.
Clarisse Darier et Étienne Castel avaient écouté avec une anxiété croissante la lecture de l'article qui précède. Quand l'abbé eut achevé, Madame Darier s'écria : « Mais c'est de point en point le portrait de la femme recueillie par nous. Cet enfant de 3 ans et demi, cette fatigue, cet épuisement, la malheureuse fuyait le théâtre de ses crimes. » « Silence, ma sœur, » dit vivement le curé. « Cette femme est ici sous mon toit, dans la maison du représentant de Dieu sur la terre. Ne nous hâtons pas de l'accuser. Si elle est coupable, nous le saurons. » « Et alors tu la livreras. Je ne la dénoncerai pas. Je laisserai à la justice le soin de la trouver. » Brigitte vint annoncer que le déjeuner étant servi, on pouvait se mettre à table. « Et cette femme, et cet enfant ?» demanda le prêtre. « Je les ai réveillés, monsieur le curé, et j'ai mis leur couvert à côté du mien, dans la cuisine. Vous avez bien fait. Prenez soin d'eux. Après déjeuner, je les verrai. » Pendant le repas, l'abbé Laugier évita de parler de Jeanne. En quittant la table, il dit à Brigitte : « Vous nous servirez le café dans le jardin. Vous ajouterez une tasse pour l'étrangère, et dans un instant vous nous l'amènerez. » « Oui, monsieur le curé. » Brigitte, docile aux ordres qui lui avaient été donnés, et d'ailleurs naturellement charitable, avait entouré de soins et d'égards Jeanne et Georges. 2 heures de sommeil, suivies d'un repas substantiel, avaient suffi pour rendre des forces et de l'énergie à la pauvre mère fugitive. Pendant le déjeuner, Brigitte ne s'était point fait faute de questionner Jeanne, sans obtenir de réponse bien précise à ses questions. Le seul désir exprimé par la jeune femme était celui de trouver une place dans le pays. « Vous prendrez tout à l'heure le café au jardin avec monsieur le curé, » lui dit la vieille servante, « et vous en profiterez pour lui expliquer vos souhaits. Croyez-vous qu'il voudra bien s'occuper de moi ?»« Certes, oui, je le crois. Monsieur le curé ne songe qu'à faire du bien. Il connaît beaucoup de monde. Il vous trouvera une bonne condition où vous serez heureuse. Ne craignez rien. » Jeanne se demandait. « Dieu prendrait-il enfin pitié de moi ? Est-ce pour me sauver qu'il m'a conduite ici ?» Un coup de sonnette avertit Brigitte qu'elle pouvait servir le café. Monsieur Laugier, Étienne et Madame Darier descendaient au jardin. L'artiste tirait de sa poche le carnet sur lequel il avait commencé, de mémoire, à crayonner le portrait de l'inconnue. Brigitte amena la veuve de Pierre Fortier, suivie du petit Georges, qui, redevenu gai, traînait joyeusement derrière lui son dada de carton. D'un rapide coup d'œil, le prêtre examina la physionomie de Jeanne, tandis que Clarisse éloignait sa chaise de la table avec un sentiment d'involontaire répulsion. « Approchez-vous, madame, et asseyez-vous, » dit l'abbé en désignant un siège. « Un peu de café vous fera grand bien. » Jeanne, confuse et très émue, s'avançait timidement. « Asseyez-vous, » répéta monsieur Laugier. La jeune femme obéit. Le petit Georges s'approcha du prêtre. « Monsieur le curé, » lui dit-il, « voulez-vous me permettre de jouer dans le jardin ? Je ne toucherai pas aux fleurs. » « Oui, oui, va, mon enfant. Merci, monsieur le curé. » Le bambin embrassa sa mère et s'éloigna en faisant rouler son cheval sur le sable fin des allées. Brigitte servait le café. Étienne, son crayon à la main, rectifiait les lignes de l'esquisse pour laquelle Jeanne posait à son insu. « Vous allez mieux, n'est-ce pas, madame ? » demanda le prêtre à la jeune veuve. « Oh oui, monsieur, beaucoup mieux, grâce à vous. Mes forces sont revenues. » « Complètement ? » « Presque complètement. Assez, enfin, pour vous permettre de continuer votre voyage ?» Jeanne rougit et, avant de répondre, hésita. L'abbé s'aperçut de cette rougeur, de cette hésitation, et reprit. « Chevry n'est point le but de votre voyage, je suppose. Vous ne comptez pas rester dans le village où vous êtes. « Je voudrais y rester, » balbutia Jeanne tremblante. « Je voudrais être au but de mon voyage. » « Comment cela ? » demanda l'abbé. « Quand j'ai sonné à votre porte, brisée de fatigue, presque mourante, tenant mon fils dans mes bras, je venais solliciter à genoux votre appui. « Vous veniez chez moi ? » s'écria monsieur Laugier surpris. « Oui, monsieur le curé, on m'avait indiqué votre demeure. Qu'aviez-vous à me demander ? De m'aider à trouver dans ce village une place, un emploi, si modeste fut-il, me permettant de vivre et d'élever mes 2 enfants. « Vous avez 2 enfants ? » ?»« Oui, monsieur, une petite fille de 11 mois, en nourrice, et mon petit Georges qui a 3 ans et demi. » »« Mais le père de vos enfants ?» Jeanne essuya 2 grosses larmes coulant sur sa joue et répondit d'une voix à peine audible. Il est mort.
Ah, vous êtes veuve?
Oui, monsieur.
Pourquoi est-ce à Chevry que vous venez chercher du travail?
Chevry n'est qu'un hameau, et on s'y place plus difficilement que dans un centre plus peuplé.
Avant de venir ici, n'habitiez-vous pas une ville et n'aviez-vous pas un emploi?
Si, monsieur, j'avais un emploi.
Vous l'avez quitté?
Malgré moi, j'ai été renvoyée. Non pour cause d'inconduite, mais je ne réunissais point certaines conditions nécessaires. Je devais dans quelques jours quitter ma place. Une triste circonstance m'a fait l'abandonner plus tôt.
Et vous voyagez à pied avec votre enfant? Étiez-vous donc absolument sans ressources?
Oui, monsieur, j'avais 6 sous. Ils m'ont servi hier à nourrir à peu près mon petit Georges.
Pour vous chercher une place, pour vous présenter quelque part, il faut que je sache qui vous êtes. Avez-vous des papiers attestant votre identité?
La jeune femme se mit à trembler de tout son corps.
Des papiers? Balbutia-t-elle.
Oui,
vous devez bien comprendre que pour être admise dans une maison quelconque, vous, étrangère au pays, il faudra donner des références. Personne sans cela ne consentirait à vous accepter.
Jeanne devint livide.
Se faire connaître, c'était dire « Je suis la femme qui s'est enfuie de l'usine incendiée. Je suis la femme que tout le monde accuse. Et comme un misérable s'est arrangé pour me perdre, je ne puis me justifier. » La situation semblait sans issue. De quel côté que se tourna la veuve du mécanicien, l'abîme. Le trouble de la malheureuse n'échappa point au prêtre.
« Comment vous nommez-vous » poursuivit-il.
« Jeanne, » répondit la jeune femme. « C'est un prénom, cela. Puisque vous avez été mariée, vous devez porter le nom de votre mari. »«
Oui, monsieur le curé. »
« Eh bien, ce nom. » De mensonge, l'hésitation même devenait impossible. Il fallait se livrer.
« Jeanne Fortier, » bégaya la fugitive.
« Jeanne Fortier ?» répéta monsieur Laugier. « Et vous venez d'Alfortville ?» La victime de Jacques Garot, tout effarée, se leva d'un bond.
« Ah ! S'écria-t-elle, vous savez tout ?»«
Oui, pauvre égaré, je sais tout, » fit le prêtre en lui prenant la main. « Je sais que vous êtes poursuivie, traquée par la police.
« Moi ? Moi ? Et de quoi m'accuse-t-on ?
D'avoir mis le feu à l'usine et assassiné monsieur Labroux. »
« Mais c'est faux ! C'est faux, cela !»
répliqua Jeanne d'une voix vibrante avec un geste d'horreur.
« Devant Dieu qui m'entend, et sur la tête de mon fils, que j'aime plus que tout au monde. Je suis innocente, je le jure. »
Frappé de l'accent de la jeune femme et de l'expression de sa physionomie, le curé, sa sœur et Étienne échangèrent un regard.
« Mais si vous êtes innocente, pourquoi fuir? Pourquoi vous cacher ? » reprit le prêtre. « Pourquoi je fuis ? Pourquoi je me cache ? »
« Oui, vous avez raison. Voilà ce qui rend l'accusation vraisemblable et la condamnation certaine.
Je fuis parce que je me sens perdue. Et j'avais une preuve de mon innocence, cependant, une preuve indiscutable.
Mais qu'est devenue cette preuve ?
L'incendie l'a dévorée comme le reste.
Ah, je vous dirai tout, monsieur le curé, et vous me donnerez de la force pour souffrir, car mon existence désormais ne sera qu'un long supplice. La mauvaise chance s'acharne après moi. Tout m'accable, tout m'écrase, et je suis innocente.
Comment vous croire?
Ah, je sais bien que c'est difficile. Écoutez-moi pourtant, écoutez et jugez.
Puis, fiévreusement, rapidement, d'une voix haletante, interrompue par des sanglots, Jeanne raconta la mort de son mari, tué par une explosion, au service de M. Labroux. Son entrée dans l'usine, la passion farouche et les obsessions du contremaître Jacques Garot. Elle parla de la lettre qu'il lui avait écrite pour la décider à le suivre, et dont maintenant le sens lui paraissait effroyablement clair. Elle cita des mots, des phrases gravées dans sa mémoire. Enfin, elle dit ses terreurs au commencement de l'incendie et son entrée dans le pavillon où elle s'était trouvée en présence de Jacques et du cadavre de l'ingénieur. Elle répéta les paroles et les menaces du misérable lorsqu'il voulait la contraindre par la violence à fuir avec lui.
« C'est à ce moment, » continua Jeanne, « que je commençais à comprendre les termes de la lettre. Cette fortune qu'il me promettait de partager avec moi, c'était celle de M. Labroux qu'il se proposait de voler. Je voulus courir pour reprendre cette lettre précieuse, ma justification, mon salut,
Il était trop tard. Le corps de logis que j'habitais s'écroulait dans les flammes, et j'entendais des voix s'élever contre moi, me désignant comme l'incendiaire. Alors, je perdis la tête et m'enfuis affolée, en emportant mon fils dans mes bras. Voilà la vérité, monsieur, la vérité tout entière. Je suis innocente. Sur le salut de mon âme et sur la vie de mon enfant. Je vous le jure de nouveau. » Les accents de Jeanne avaient fait passer la conviction dans l'esprit de ses auditeurs.
Une mère qui jure sur la tête de son enfant ne saurait mentir, dit le curé.
Je vous crois donc. Mais expliquez-moi comment il se fait que ce Jacques Garot soit mort dans l'incendie, victime de son dévouement, à ce qu'on assure.
Lui ? Mort ? S'écria Jeanne. Lui ? Victime de son dévouement ? Allons donc.
La note que publie le journal à ce sujet est explicite.
Alors, je serai condamnée sans appel ?
Murmura la jeune femme.
Si Jacques Garot est mort, aucune puissance humaine ne pourrait me disculper.
Je n'avais qu'un espoir, c'est qu'en face de moi, le misérable n'oserait pas soutenir son mensonge.
Cet espoir disparaît, tout est fini pour moi.
Calmez-vous, je vous en prie, ma pauvre enfant, dit le prêtre. Vous êtes assurément coupable de n'être pas resté au poste qui vous était confié. On aurait dû vous trouver sur le lieu du sinistre, prêt à répondre à toutes les questions, à repousser toutes les accusations. Votre fuite a été une faute grave, mais non point un crime. De tout le reste, vous êtes innocent. Je crois à un enchaînement terrible de preuves menteuses qui se réunissent contre vous et vous accablent. Mais votre voix, votre regard plaident pour vous.
Les juges écouteront-ils ma voix? Se laisseront-ils toucher par mon regard?
Bégaya Jeanne éplorée. Nous demanderons à Dieu de vous venir en aide, comme je lui demande en ce moment de nous inspirer. Qu'allez-vous faire? Que devez-vous faire? Faut-il courir au-devant de l'accusation, vous présenter au juge et lui crier « Je suis innocente, je le jure ». Votre serment produira-t-il sur eux l'impression qu'il a produite sur moi? Fera-t-il pénétrer dans leur esprit la conviction qu'il a fait passer dans le mien?
Je l'ignore, je l'espère, je veux le croire, mais je ne puis l'affirmer.
Ce que j'affirme, c'est que, forte de votre conscience, vous ne devez point hésiter à braver le péril, si grand soit-il. Le devoir qui s'impose à vous est d'aller à Paris, trouver les magistrats, et leur dire « Je me nomme Jeanne Fortier. On m'accuse d'incendie et d'assassinat. On me cherche. Je pouvais me cacher, je ne l'ai pas voulu. Me voici. Je suis prête à me joindre à vous pour la recherche de la vérité. » Jeanne avait écouté les paroles du prêtre avec un effarement manifeste.
« Mais si je me livre ? » s'écria-t-elle. « C'est la prison qui s'ouvrira pour moi. On me séparera de mon fils. »
« Malheureusement, c'est inévitable. Mais ne vous en prenez qu'à vous, car vous portez la peine de votre fuite. » « Examinons ensemble la situation. Votre signalement est donné partout. D'un jour à l'autre, si ce n'est d'une heure à l'autre, on vous arrêtera, et vous serez conduite de brigade en brigade à Paris, où vous devrez répondre au juge chargé de l'instruction. Croyez-moi, évitez les humiliations effroyables de ce calvaire. Livrez-vous. Je ne vous abandonnerai pas. Je vous accompagnerai. Je vous conduirai moi-même au parquet et je dirai au procureur impérial que je me porte garant de votre innocence. » La veuve de Pierre Fortier avait pris son front dans ses mains.
« Mon Dieu ! » bégayait-elle. « Mon Dieu ! »
« N'hésitez point, » continua le prêtre. « Songez que tout à l'heure, peut-être, on viendra s'emparer de vous ici. »«
Ici ? » répéta Jeanne. « Dans votre maison ?»
« Ma maison n'est point inviolable, hélas, pour la justice des hommes. »«
Mais ma petite fille qui est en nourrice, » s'écria la jeune veuve en sanglotant. « Mais mon enfant, mon Georges !»
Georges avait entendu prononcer son nom. Il accourut.
« Petite mère, tu pleures ? Pourquoi pleures-tu »
fit-il en tendant les bras à Jeanne. Celle-ci l'enleva de terre et le serra passionnément contre sa poitrine, en le couvrant de ses baisers, en l'inondant de ses larmes. Soudain, un violent coup de cloche retentit à la grille. Des rumeurs confuses se firent entendre en même temps.
« C'est moi qui lui ai indiqué le chemin de la cure, » disait une voix.
Une autre ajoutait, «
Je l'ai vue entrer chez monsieur le curé. Elle est là, j'en suis sûre. »
Jeanne fut prise d'un tremblement nerveux.
« C'est de moi qu'on parle. C'est moi qu'on cherche. »
bégaya-t-elle avec une indicible épouvante, en étreignant son fils plus étroitement encore. Brigitte avait ouvert la grille. En moins d'une seconde, le jardin fut envahi par une vingtaine de personnes, à la tête desquelles se trouvait le maire du village, le brigadier de gendarmerie et 4 gendarmes. Le maire s'avança le premier d'un air fort digne, salua respectueusement le prêtre et sa sœur et prit la parole.
« Pardonnez-moi, monsieur le curé, » dit-il, « si je me permets, bien malgré moi, d'envahir votre demeure. En agissant ainsi, je remplis un devoir. Je me présente au nom de la loi. »
Terrifié par la vue des gendarmes, Jeanne et son fils avaient reculé. L'enfant se tenait serré contre sa mère, dont il avait saisi la jupe d'une main, tandis que de l'autre, il tenait la ficelle de son cheval de carton. Le tableau qui venait de se former dans le jardin du curé était d'un effet saisissant. Aucun metteur en scène, fût-il de premier ordre, n'aurait plus habilement disposé les personnages sur un théâtre. Étienne Castel, frappé de la composition fortuite de ce tableau, courut à son chevalet, prit une toile blanche et se mit à dessiner à grands traits ce qu'il avait sous les yeux. Le curé s'était levé et marchait à la rencontre du magistrat municipal.
« Je sais ce qui vous amène, monsieur le maire, » lui dit-il. « Vous cherchez une jeune femme nommée Jeanne Fortier ?»«
Oui, monsieur le curé. » »«
Jeanne Fortier, accusée du triple crime d'incendie, de vol et d'assassinat. »
La fugitive à laquelle Georges se cramponnait toujours fit un pas en avant et s'écria
« C'est faux, monsieur! Je suis innocente !»«
Que vous soyez innocente ou coupable, » répliqua le maire, « ce n'est point à moi de juger. »«
Êtes-vous Jeanne Fortier ?»«
Je suis Jeanne Fortier. » »«
Gardienne de l'usine de l'ingénieur Jules Labroux, à Alfortville, département de la Seine ?»«
Oui, monsieur. » Le maire fit un signe. Le brigadier de la gendarmerie s'avança en disant
« Au nom de la loi, et agissant en vertu d'un mandat régulier, » « Je vous arrête. »«
Eh bien, arrêtez-moi, » fit Jeanne avec exaltation.
« Qu'on me conduise en prison, qu'on me juge, qu'on me condamne. On peut m'envoyer à la guillotine. On ne peut m'empêcher d'être innocente. »«
Maman, maman, maman !»
répétait le petit Georges tout effaré. Le brigadier de gendarmerie se tourna vers ses hommes.
« Mettez-lui les menottes, » ordonna-t-il.
Jeanne sentit un frisson courir sur sa chair.
« Les menottes ?» répéta-t-elle d'une voix étranglée en reculant. « Non, non, je ne veux pas !»«
Ne résistez point, mon enfant, je vous en prie, » fit le curé. « Résignez-vous en chrétienne, obéissez à la loi. » La malheureuse femme baissa la tête et tendit les mains.
« C'est fait. En route maintenant, » commanda le brigadier.
Georges s'était pendu aux mains enchaînées de la prisonnière.
« Reste, petite mère, » criait-il. « Reste, j'ai peur !»
« Ne pleure pas, mon enfant, » lui dit Jeanne. « Viens, Dieu nous protégera. »«
Je ne veux pas qu'on t'emmène. Viens !»«
Votre enfant ne peut vous suivre, » interrompit le brigadier.
« Vous me séparez de mon fils ?» bégaya Jeanne avec une stupeur épouvantée.
« Je le dois. L'ordre d'arrestation ne concerne que vous, Jeanne Fortier. Il n'est question d'aucun enfant. Par conséquent, la femme en prison, l'enfant à l'hospice, en attendant des ordres supérieurs. »
Jeanne devint pâle comme une morte.
« À l'hospice, mon enfant ? » fit-elle d'une voix à peine distincte. « Non, non, vous ne ferez pas cela !»
Georges répétait « Reste, petite mère, reste !»«
Je ne veux pas !» poursuivit la prisonnière en se débattant au milieu des gendarmes qui cherchaient à l'entraîner.
« Je ne veux pas qu'on me sépare de mon fils !»
Elle ajouta, en tendant vers le prêtre ses mains suppliantes, qu'une chaînette de fer attachait l'une à l'autre.
« Monsieur le curé, par grâce, par pitié, intercédez pour moi !» « Dites-leur que c'est impossible, qu'on ne peut pas me séparer de mon fils !»«
Obéissez à la loi, pauvre femme, » répéta la Bélogier, « et ne craignez rien pour votre enfant. Il n'ira point à l'hospice. Je le garderai près de moi. Le sachant main sûre, vous serez tranquille. Si, comme je l'espère, il vous est possible de prouver votre innocence, vous viendrez le chercher ici, vous-même. Si, au contraire, vous ne parvenez point à dissiper les ténèbres qui entourent le crime d'Alfortville, si vous êtes condamné, je vous jure de ne point abandonner votre petit Georges. »
Madame Darrier s'avança près de son frère et dit en étendant la main.
Ne tremblez pas et ne pleurez plus, pauvre femme. Votre enfant retrouve une mère. Je vous jure, moi, de faire de lui mon fils. Moi aussi, j'avais un fils de l'âge de celui-là. Dieu me l'a pris. Je croirais que Dieu me l'a rendu. » Jeanne balbutiait au milieu de ses sanglots.
« Ne plus le revoir ? Ne plus le revoir ? C'est au-dessus de mes forces !»
Georges continuait à crier.
« petite mère, ne t'en va pas !»
Madame Darrier le prit dans ses bras et lui dit « Mon mignon, ta petite mère est obligée de partir, mais elle reviendra. »«
Bien sûr ?»
demanda l'enfant.
« Oui, bien sûr. »« Quand ?»«
Bientôt. En attendant, veux-tu rester avec moi ?»«
Avec vous et avec monsieur le curé ?»
fit Georges.
« Oui, avec nous deux. »« Eh bien, oui, je veux bien rester avec vous deux, si petite mère me promet qu'elle reviendra bientôt. »
Jeanne suffoquait.
« Oh, prenez-le, prenez-le »
dit-elle avec désespoir.
« Aimez-le bien, parlez-lui de sa mère.
Oui, cher mignon, reste avec la bonne dame et avec monsieur le curé. Reste avec eux. Ils te répéteront que ta mère est innocente et qu'elle t'adorait.
Tu entends bien ? Qu'elle t'adorait. Ne l'oublie pas, ne l'oublie jamais !»
La vieille servante Brigitte sanglotait de tout son cœur, un peu en arrière, et de ses lèvres tombaient ces mots.
« Pauvre femme, pauvre petit !»
La veuve de Pierre Fortier continua en dévorant son fils de baisers.
« Embrasse-moi encore, encore !»« Tenez, madame, » ajouta-t-elle en s'adressant à la sœur du curé, « recevez-le, emportez-le, que je ne le vois plus. »
Puis se tournant vers les gendarmes,
« Emmenez-moi, je suis prête !»
Et elle s'élança vers la grille. L'enfant poussait des cris lamentables. Madame Darrier l'emporta dans la maison, où Brigitte les suivit. Le curé accompagna jusqu'au seuil de sa demeure le maire de Chevry et Jeanne Fortier. Au moment de franchir le seuil, Jeanne se tourna vers le prêtre.
« Votre bénédiction, mon père !» lui dit-elle.
Et elle s'agenouilla devant lui. L'abbé Laugier, attendri jusqu'aux larmes, étendit ses deux mains sur la tête de l'humble martyr en balbutiant, car l'émotion lui serrait la gorge. « Au nom de Dieu, de justice et de bonté, mon enfant, je vous bénis. Puisse la justice des hommes ne pas être aveugle, car les apparences sont contre vous. Mais moi, je crois à votre innocence. » Tous les assistants s'étaient découverts et inclinés. Jeanne se releva. L'abbé Laugier lui tendit les bras. Elle s'y laissa tomber en pleurant. « Allez, mon enfant, dit ensuite le prêtre, soyez forte et mettez tout votre espoir en Dieu. Il ne me reste que lui et vous, répliqua Jeanne en suivant les gendarmes. On l'enferma provisoirement à la gendarmerie, d'où quelques heures plus tard on la conduisit en voiture, grâce à l'intervention généreuse de l'abbé Laugier, à Brie-Comte-Robert. De là, on télégraphia à Melun son arrestation. Le lendemain, elle partait pour Paris en chemin de fer avec deux gendarmes et on l'écrouait au dépôt de la préfecture de police. Étienne Castel se disait « J'ai trouvé mon tableau. À l'exposition prochaine, on parlera de moi. » Jacques Garot avait pris sous le nom de Paul Armand sa place sur un paquebot faisant le service du Havre à Southampton. De là, il avait gagné Londres afin de s'embarquer sur le premier navire en partance pour l'Amérique. L'article publié par les journaux au sujet de l'incendie de la fabrique d'Alfortville et dans lequel on parlait de sa mort héroïque était tombé sous ses yeux. Il se réjouissait fort de la tournure que prenaient les affaires. Tout marchait au gré de ses désirs. Il ne lui restait qu'à arriver dans le pays où, grâce à l'argent et au plan volé, il pourrait faire rapidement une grosse fortune. Nous le suivrons bientôt à bord du Lord Mayor, steamer de premier ordre qui devait le transporter à New York. Pour le moment, rejoignons Jeanne Fortier. Aussitôt que M. Delaunay, juge d'instruction chargé de l'affaire, apprit l'arrestation de Jeanne et son arrivée au dépôt de la préfecture, il donna l'ordre de l'amener immédiatement dans son cabinet. La malheureuse femme était préparée à tout. Le courage, la résolution, l'énergie avaient remplacé chez elle la faiblesse, la défaillance et le découragement. Aussi ce fut avec calme, avec sang-froid, qu'elle affronta la présence du magistrat de qui dépendait son sort. Sans perdre une seconde, M. Delaunay s'assura que son greffier était prêt à écrire et commença l'interrogatoire. « Votre nom ? » demanda-t-il.
Jeanne Fortier. Votre âge ?
26 ans, car je suis née à Paris le 15 octobre 1853.
Célibataire ou mariée ?
Veuve de Pierre Fortier.
En son vivant, mécanicien, mort de mort violente au service de M. Labroux, ingénieur, qu'on m'accuse d'avoir assassiné pour le voler après avoir incendié son usine. Cette phrase, prononcée d'un ton simple et ferme à la fois, fit lever la tête au juge d'instruction. Il attacha sur Jeanne un regard scrutateur, puis, après un moment de silence, il dit
« Vous savez de quoi l'on vous accuse. Qu'avez-vous à répondre ?»«
Trois mots seulement. Je suis innocente. »
M. Delaunay haussa les épaules. « Si vous étiez innocente, répliqua-t-il, les yeux toujours rivés sur ceux de Jeanne, pourquoi auriez-vous quitté l'usine et pris la fuite avec votre enfant, au lieu d'appeler au secours lorsque l'incendie s'est déclaré ?»
Jeanne parut se recueillir.
« Répondez !» fit le juge avec impatience.
« À quoi bon ? Vous ne me croirez pas. »«
C'est que vous allez mentir. »«
Non, c'est que la vérité n'est pas vraisemblable. »«
Tout conspire contre moi. Comment ajouteriez-vous foi à un récit que pas une preuve ne vient appuyer ? Vous devez me croire coupable, et cependant je suis innocente. »«
Vous niez avoir assassiné M. Labroux ?
Certes, je le nie de toutes mes forces. » Vous prétendez que vous n'éprouviez à son égard aucune haine.
De la haine ? Pourquoi l'aurais-je haï ?
Il vous avait chassé ?
Non, monsieur. Il m'avait tout simplement averti que je ne pouvais conserver mon emploi de gardienne de l'usine. Il agissait dans la plénitude de son droit. Et quoique sa décision me fût pénible, je comprenais qu'il avait raison de la prendre.
Vous en vouliez à monsieur Labroux à cause de la mort de votre mari.
Comment aurais-je pu en vouloir au patron ? La malheur, dont il n'était point responsable. Lui reprocher injustement mon deuil eût été l'acte d'une folle. Monsieur Labroux, du reste, avait fait ce qui dépendait de lui pour me venir en aide après mon malheur.
Vous niez avoir incendié l'usine ?
Je nie l'incendie comme je nie l'assassinat. De ces deux crimes, je suis innocente.
Prouvez-le.
Comment ?
En réfutant les preuves entassées contre vous et dont l'ensemble est écrasant. Vous avez à deux reprises acheté du pétrole.
C'est vrai ?
Vous en avez placé une partie dans des bouteilles.
C'est encore vrai ?
Ces bouteilles ont été retrouvées vides dans la cour de l'usine, où vous les aviez jetées après avoir répandu leur contenu sur les copeaux des ateliers.
C'est faux ! Je nie de toutes mes forces !
Le juge d'instruction attacha pour la seconde fois sur Jeanne un regard pénétrant. Elle ne baissa pas les yeux. Il reprit. Vous avez forcé la caisse de M. Labroux pour en voler le contenu. L'ingénieur, revenant à l'improviste, vous a surprise et vous l'avez tué.
M. Labroux a été tué par la main qui a versé le pétrole et forcé la caisse, mais cette main n'est pas la mienne.
Voilà votre système de défense.
Ce n'est point un système de défense, c'est la vérité.
À qui espérez-vous persuader cela ?
Je vous avais prévenu, monsieur, que vous refuseriez de me croire.
N'avez-vous point dit à M. Labroux, à la suite d'une discussion, que le fait de vous avoir retiré votre emploi ne lui porterait pas bonheur ?
Je l'ai dit.
Avez-vous répété cette phrase au garçon de bureau David ?
Je l'ai répétée.
Vous trouviez-vous dans le cabinet de M. Labroux, le jour de son départ pour Saint-Gervais, où il allait voir son enfant malade, où le caissier Ricou est venu lui remettre de l'argent et établir l'état des sommes qui devaient exister en caisse ?
Je m'y trouvais.
Alors, vous avez tout entendu.
Et si bien entendu que le chiffre prononcé par M. Ricoux est resté dans ma mémoire.
Quel était ce chiffre ?
190 000 et quelques cent francs.
Vous avez une mémoire prodigieuse, fit le juge avec ironie. Il paraît que le chiffre énoncé devant vous était pour vous d'un grand intérêt. La pensée criminelle se formulait déjà.
Et monsieur, ne peut-on se souvenir sans avoir pour cela une pensée criminelle ?
L'acte de fuir, comme vous l'avez fait, n'est-il pas la preuve, sans réplique, de votre culpabilité ?
Dites de ma faiblesse. J'ai cédé lâchement aux menaces qui m'ont été adressées, aux violences qui m'ont été faites.
Par qui ?
Par le vrai, par le seul coupable.
Vous prétendez le connaître ? S'écria le juge.
Je le connais.
Nommez-le donc ?
Jacques Garot.
Le contremaître de l'usine.
Lui-même ?
Pour la seconde fois depuis le commencement de l'interrogatoire, M. Delaunay haussa les épaules.
Vous êtes vraiment bien mal inspiré, répliqua-t-il d'un ton dédaigneux. S'il est quelqu'un que vos accusations calomnieuses ne peuvent atteindre, c'est le brave contremaître qui, victime de son dévouement, a trouvé la mort au milieu des flammes.
Justice de Dieu qui n'a pas voulu,
si Jacques Garot est vraiment mort, que le misérable puisse recueillir les fruits de ses crimes. Vous osez le croire vivant quand 20 personnes l'ont vu disparaître dans l'incendie? Vous osez l'accuser?
Je l'ose.
Toujours sans preuve, bien entendu.
La preuve, je l'avais.
Qu'est-elle devenue?
Elle a été réduite en cendres à Alfortville, pendant la nuit fatale, car l'incendie n'a point épargné le pavillon habité par moi.
Bref, cette prétendue preuve, vous ne la possédez plus.
Non, monsieur.
Et c'est sur des arguments de cette valeur que vous prétendez établir votre défense?
Monsieur, voulez-vous m'entendre?
Parlez, je vous écoute.
Jeanne recommença presque dans les mêmes termes le récit qu'elle avait déjà fait à l'abbé Laugier, à sa sœur et à Étienne Castel. Mais l'impression produite par ce récit fut malheureusement bien différente. Sa voix émue, l'expression puissante de son visage, avait porté la conviction de son innocence dans l'esprit de ses premiers auditeurs. Le magistrat prévenu n'écouta la prisonnière qu'avec un sourire d'incrédulité. Quand elle eut achevé, il lui dit d'un ton railleur :
Vous avez une imagination féconde, mais vos inventions sont plus romanesques que vraisemblables.
Ainsi, fit Jeanne, vous ne me croyez pas.
Pour vous croire, il faudrait pousser bien loin la naïveté. La fable que je viens d'entendre ne soutient point l'examen. Comment ? Vous recevez une lettre pareille à celle que vous prétendez avoir été écrite par Jacques Garot, et vous n'attachez à cette lettre aucune importance ? Vous la jetez dans un coin de votre logis ? Comment ? Vous l'obligez ? Vous la protégez de M. Labroux ? Vous voyez votre protecteur assassiné dans sa maison en feu, et vous prenez lâchement la fuite, au lieu de rester à votre poste pour éclairer la justice et pour dénoncer le vrai coupable, qui vous est connu ? Allons, allons, de tout cela, la logique est absente. Vous vous êtes dit « Jacques Garot est mort, je l'accuserai. Il ne ressuscitera point pour me démentir. »